La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, premier épisode d'une série consacrée à un observateur des mœurs amoureuses au temps de l'Ancien Régime, Marivaux. Marivaux, qui a vécu entre 1688 et 1763 et dont on donne aujourd'hui encore très souvent les pièces majeures, que sont par exemple La surprise de l'amour, Les fausses confidences, Le jeu de l'amour et du hasard, La dispute, preuve, s'il en fallait, de sa capacité à intéresser au-delà, bien au-delà de son siècle, en portant le regard sur ses sentiments que produisent les intermittences de nos cœurs si prompts à s'emballer, ou pas d'ailleurs. Le réalisateur Abdelatif Kechiche nous l'a bien montré avec L'Esquive, son film de 2003, dans lequel on se rendait bien compte que rien fondamentalement n'avait changé entre la France du grand siècle et celle des cités d'aujourd'hui, dans ce qui concerne la parade que se livrent les amoureux. Alors, pour approcher ce grand auteur moderne, je recevrai jeudi Catherine Henry pour son livre « Marivaux et le Loft », ainsi que l'universitaire Jean-Paul Sermin. Mercredi, le metteur en scène Jacques Lassalle viendra nous raconter comment il a pratiqué durant de nombreuses années les textes de Marivaux sur les planches. Demain, nous parlerons de son œuvre de romancier, en particulier de La vie de Marianne, avec Christophe Martin et Jacques Guillambé, tous deux de l'université Paris-Sorbonne. Et aujourd'hui, un panorama introductif sur l'œuvre et la vie de Marivaux. J'ai le plaisir de recevoir Françoise Rubellin, professeure de littérature française du 18e à l'université de Nantes. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs.
Tout d'abord, pour bien se rendre compte de l'intérêt que présente pour nous Marivaux, il nous faut le situer dans l'histoire. Par exemple, il avait 11 ans quand Racine est mort. Quand Louis XIV mourut, il avait déjà écrit une pièce et fait paraître plusieurs romans et essais. Il avait, pour ainsi dire, tout dit 50 ans avant la Révolution française. Beaumarchais, Rétif de la Bretonne, Laclos, les liaisons dangereuses, le marquis de Sade sont ses cadets de près de 50 ans. Il les motive tous quatre. Marivaux est donc un précurseur. Il a exactement en littérature la position que Watteau a en peinture. Watteau est en effet son peintre et beaucoup plus que Boucher ou Lancret. Il est intéressant, captivant, passionnant sur tous les points. Étonnant d'audace sur le plan social.
Jean-Louis Barrault, dans une archive de 1949. Bonjour Françoise Rubellin.
Bonjour.
C'est vrai qu'on oublie un petit peu, comme le souligne Jean-Louis Barrault, que Marivaux est un écrivain de bien avant la Révolution, un écrivain qui naît en 1788, donc pas tout à fait encore à la fin du XVIIe siècle.
Oui, 1688.
1688, bien sûr.
Il est contemporain de Bach, et en effet, il est vraiment l'écrivain non pas des Lumières, mais de ce tournant vers le siècle des Lumières. Et c'est un auteur qui laisse parfois mal à l'aise parce qu'on ne sait pas l'enfermer dans une catégorie. On voudrait lui mettre des étiquettes et il détestait ça.
En quoi est-ce qu'il n'est pas des Lumières ?
On pourrait développer, je ne dis pas qu'il n'a pas eu la pensée des Lumières, mais aujourd'hui on a un peu trop tendance à vouloir voir le XVIIIe siècle depuis l'encyclopédie. Et comme le rappelait Jean-Louis Barrault, c'est beaucoup plus tôt que Marivaux commence. Je voudrais par exemple mentionner que les premières œuvres de Marivaux, qui font l'objet d'un volume de la Pléiade intitulé « Œuvres de jeunesse », renferment un roman, un grand roman style roman baroque du XVIIe siècle, un petit roman parodique, est très inventif, La voiture embourbée, très moderne parce que des personnages inventent un roman qu'ils continuent chacun à tour de rôle. Une autre œuvre qui est un Farsamon ou les nouvelles folies romanesques, donc on est dans la distance critique. mais aussi des œuvres que le grand public ne connaît pas, comme L'Homère travesti. C'est des œuvres très satiriques, voire scatologiques, où on entend Marivaux parler de pipi et de caca. Et oui, je vous surprends peut-être, mais ce Marivaux-là n'est pas celui qui a sa belle perruque et qui est entré à l'Académie française. Ou plutôt, c'est le même, mais dans notre époque, comme on aime simplifier les choses, on oublie la complexité.
Oui, on pose toujours des étiquettes, c'est ça que vous déplorez en fait, un petit peu.
Et on oublie aussi que les écrivains se cherchent, changent, que le critère de la bonne œuvre ou de la grande œuvre a pu évoluer, ça dépend des contextes. Par exemple, dans la querelle des anciens et des modernes, la deuxième querelle qui battait son plein entre 1714 et 1715, Marivaux était résolument du côté des modernes.
On peut peut-être rappeler rapidement, puisque dans la vie de Marivaux et dans son œuvre, la modernité est vraiment ce qui compte, ce qui est important. Peut-être faut-il donc redire rapidement ce que c'est que cette querelle des anciens et des modernes, et donc la seconde à laquelle prend part Marivaux, Françoise Rubellin.
Oui, au XVIIe siècle, cette première querelle des modernes et des anciens voit s'affronter les tenants de la notion de progrès en littérature et en science. Aujourd'hui, c'est surprenant, mais on ne considérait pas que le progrès était une valeur positive et il fallait, pour dire simplement les choses, toujours prendre exemple sur l'Antiquité. Les maîtres à penser, c'était Aristote. Nos tragédies classiques et canoniques ont des sujets gréco-romains. Les médecins devaient, on le voit bien chez Molière, toujours citer Galien et Hippocrate. Alors que d'autres, comme des écrivains comme Charles Perrault, puis Fontenelle, puis Marivaux, sont pour un progrès. La deuxième querelle, elle concerne Homère. Oudard de Lamotte avait osé raccourcir l'œuvre d'Homère dans une sorte d'adaptation. Il avait osé dire que quelquefois Homère était grossier et ennuyeux. Et ça a déclenché une querelle entre les défenseurs d'Homère et ceux qui peuvent s'en moquer, comme Marivaux qui réécrit L'Homère travesti en racontant, par exemple, à propos d'Agamemnon, un valet entra dans sa chambre qui certes ne sentait pas l'ambre. Il se boucha le nez et dit « Atride a pissé dans son lit ». Eh bien, c'est du Marivaux de 1716.
Donc qui est aussi une manière de prendre position. Alors, Marivaux, une biographie quasiment inconnue, Françoise Rubellin. On a quelques grands moments de la vie de Marivaux que vous allez nous détailler, mais peut-être pourriez-vous d'abord nous dire pourquoi est-ce qu'on connaît si mal sa vie ?
On connaît mal la vie de Marivaux, d'abord parce que l'homme était discret. Il n'affectionnait pas la vie publique à la manière d'un Voltaire ou d'autres. C'était un homme discret.
D'un caractère peut-être difficile, qu'on disait susceptible.
On a un seul témoignage par Madame de Graffigny d'une réunion où il s'est montré un peu susceptible. Mais ce n'était pas un colérique, c'était un homme profondément bon. On le voit à travers ses textes, qu'il s'agisse de théâtre ou de roman. Par exemple, dans Le jeu de l'amour et du hasard, Marivaux fait dire à un personnage, M. Orgon, dans ce monde, il faut être, on n'est jamais trop bon, il faut être un peu trop bon pour l'être assez. C'était un homme bon, et le côté subversif, c'est trop fort, que certains veulent voir dans son œuvre, comme L'île des esclaves, ce n'est pas un appel à la révolution des esclaves contre les maîtres, mais c'est plutôt une meilleure compréhension. Ce que Marivaux souhaitait, c'est une forme de générosité, d'humanisme, que les maîtres comprennent mieux le sort des valets.
Oui, parce que cette pièce est un espèce de jeu de retournement où sur une île déserte, enfin c'est un motif finalement qui va devenir assez classique, sur une île déserte, les rôles sont inversés, les valets deviennent les maîtres et les maîtres deviennent les valets.
Exactement. Alors pour revenir à la vie de Marivaux, en gros, on ne sait même pas sa date de naissance.
On dit quand même début février 1688.
Oui, on sait qu'il a. Alors, on connaît sa date de baptême, le 4 février 1688. Comme en général, on baptisait les gens très peu après leur naissance, souvent on a mis des dates par rapport à cela. Et on connaît sa date de mort en 1763. Mais pour sa jeunesse, on ne sait pas grand-chose. On disait même, il y a encore 40 ans, qu'il avait vécu à Limoges, mais c'est tout à fait faux. On sait qu'il est né à Paris et qu'il est allé suivre son père en Auvergne. Son père a été nommé contrôleur de la monnaie à Rion. Donc une partie de son enfance, mais peut-être entre ses 10 ans et ses 20 ans, on ne sait pas exactement, où il était en Auvergne, où il a certainement là appris à regarder les paysans qui sont présents dans son œuvre, dans Farsamond, dans le Télémaque travesti, dans le paysan parvenu.
Et ça correspond à quoi cette profession du père ? Est-ce que c'est de l'aristocratie ? Est-ce que c'est de la petite aristocratie ?
C'est une charge, c'est pas par rapport à son aristocratie, mais c'est une charge assez importante. Et Marivaux, théoriquement, était destiné à prendre la succession de son père. C'est pourquoi, quand Marivaux a 22 ans, il monte à Paris, comme on dit, et il va s'inscrire à l'école de droit, pour faire une licence de droit. Et là, c'est formidable parce qu'on a gardé des registres des inscriptions des étudiants. Et on s'aperçoit, c'est Marie-Jeanne Durie qui a cherché tout ça il y a longtemps, qu'il est très peu assidu, qu'il manque beaucoup de cours, qu'il ne se présente pas aux examens. Et finalement, il va traîner un temps indéfinissable pour arriver à avoir son diplôme. Mais il ne sera jamais avocat. Mmh. On avait l'impression qu'il devait occuper la charge de son père. Son père meurt, mais Marivaux, ça ne l'intéresse pas, parce que maintenant, ce qu'on sait de sa vie, c'est qu'il se lance dans la littérature dès qu'il arrive à Paris. Et à 24 ans, il publie son premier roman, un grand roman, un peu d'aventure, surtout très sentimental, très à l'ancienne, très 17e siècle, qui s'intitule Les effets surprenants de la sympathie.
Alors, l'écriture, effectivement, qui arrive, vous le dites assez rapidement, on dit que c'est également parce que, à cette époque-là, il y a la faillite de ce qu'on appelle la faillite de Law, donc la faillite de la première banque, en gros, française, qui l'aurait poussé, finalement, à s'engager pour gagner sa vie sur le chemin de l'écriture. Vous, ça vous semble pas quelque chose de primordial ?
Ça ne me semble pas primordial. Ce que je constate, c'est que quand on ne sait rien sur la vie des auteurs, on invente. C'est le cas pour beaucoup d'auteurs. On aime bien avoir des informations. Et c'est comme pour ses relations avec l'actrice Sylvia. Tout est fiction. On se dit, il était veuf et il y avait une actrice jolie. Donc sûrement, il avait une liaison avec Sylvia. Mais on invente parce qu'on ne sait rien. Dire que parce qu'il a perdu de l'argent dans cette faillite, il a été obligé d'écrire, je ne le crois pas, parce que toute sa vie, il écrit, et puis que ça ne gagnait pas beaucoup d'argent d'écrire. Donc, très peu d'auteurs pouvaient vivre de leur plume à l'époque. Je pense plutôt qu'il avait envie d'écrire.
Alors, rentrons davantage dans l'œuvre, avec pour commencer, Michel Deguy.
Alors, un mot sur la suite de Molière, en simplifiant beaucoup. Je dirais que, d'une part, Marivaux reprend la scène du dépit amoureux pour la dilater. Marivaux, c'est aussi un agrandissement d'un détail moliéresque. Détail, agrandissement. Le détail, c'est la scène du dépit amoureux, comme il y en a une dans Tartuffe. C'est-à-dire les deux jeunes gens, l'homme et la femme, jeunes, qui se sont dit non, qui se sont brouillés, qui se sont jurés, qui se détournent l'un de l'autre et qui ne pourraient absolument pas revenir l'un vers l'autre s'il n'y avait le tiers, qui en l'occurrence est une servante, mais qui pourrait être quelqu'un d'autre, un intendant, que sais-je. Ça, c'est la scène du dépit amoureux qui est dans Molière, mais qui occupe une scène, tandis que là, ça occupe un acte, deux actes, trois actes, finalement, le théâtre tout entier. D'autre part, pour me borner là, dans ce qui concerne le rapport à Molière, alors, au fond, tout ce que Molière moquait sous le nom de préciosité, qui était pour lui un ridicule et qui est une affectation dans le langage, se trouve, et là, il y a une inversion, se trouve d'une certaine manière, hérité et admis, c'est-à-dire que la préciosité, c'est le marivaudage, si on veut dire, et ce que Molière aurait probablement jugé un peu excessif dans les jeux de langage se trouve au contraire dilaté, magnifié par Marivaux.
Marivaux, qui avait 10 ans quand Molière mourait, il reste donc... Vous faites non de la tête, j'ai dû encore me tromper dans mes calculs,
non,
c'est ça ?
Non, parce que Molière est mort en 1673 et Marivaux est né en 1688.
Oui, donc je me suis complètement trompé. Mais il reste quand même le référent, Françoise Rubin.
Ah oui, en effet, Molière, c'est vraiment le référent pour tous les auteurs qui écrivent des comédies au XVIIIe siècle. Et certains voudront l'égaler, voire le surpasser. Je songe à Destouches qui cite souvent Molière. de Marivaux, on a dit, mais on lui a fait dire, il ne l'a jamais dit lui-même, que, ben, qu'il voulait être différent de Molière, etc. Marivaux n'était pas prétentieux, Marivaux allait son chemin, il faisait ce qu'il avait envie de faire. Et ce qu'il avait envie de faire, c'était différent de Molière. Je peux dire en quelques mots la différence pour ce qui est du théâtre et des comédies, puisque Marivaux a écrit essentiellement des comédies. Que cela soit dit une fois, Marivaux a écrit au début de sa carrière une tragédie et une comédie. La tragédie pour le théâtre français n'a pas marché, la comédie a marché, Arlequin poli par l'amour. Et à partir de là, il va écrire toujours des comédies. On a retrouvé des fragments d'une autre tragédie inachevée, mais c'est tout. En revanche, presque 40 comédies. Alors, ce qu'il veut faire de différent de Molière, c'est de mettre au centre de ses pièces de théâtre le sentiment amoureux. Et le sentiment amoureux, dans son évolution, ses méandres, sa complexité. C'est pour cela que souvent on dit que dans les pièces de Marivaux, il ne se passe rien. C'est une acception négative du marivaudage, comme quand on dit d'un film de Romère, c'est du marivaudage, parce qu'il n'y a pas d'action. Mais chez Marivaux, l'action, c'est justement le langage lui-même en ce qu'il sert à montrer comment, par exemple, une jeune fille a peur de se rendre compte qu'elle est amoureuse, que telle autre comtesse est pleine de mauvaise foi, puisque celle-ci ne veut pas avouer qu'elle est infidèle. Et quand sa suivante Lisette lui dit « Mais madame Dorante, est-ce que vous ne l'aimez plus ?» La comtesse répond « Qu'appelez-vous plus ?» Donc ça, c'est le langage qui démasque la mauvaise foi. Et Marivaux était passionné des chemins du sentiment. Alors en ceci, il est très moderne. Il est tout à fait compris aujourd'hui, puisque les personnages ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Et c'est au spectateur de faire aussi une partie de la construction du personnage. Ça, c'est très différent de chez Molière, où globalement, je simplifie un peu, mais il y a plus de caractère et le sentiment amoureux n'est pas dans toutes ces petites difficultés le cœur de la pièce.
Mais on n'a pas défini encore exactement ce que c'était que le marivaudage. Et c'est peut-être justement le moment, Françoise Rubellin, moment tant attendu par nos auditeurs, de définir exactement ce qu'on croit connaître, mais qu'on ne connaît pas, le marivaudage.
Alors, vous me donnez combien pour une réponse en quatre mots ?
Je ne sais pas ce que vous voudrez.
Alors, justement, je ne dirai pas quatre mots. Là aussi, c'est très difficile de faire entrer toute une vie de dramaturge dans une simple définition. On parlait un peu des étiquettes tout à l'heure. Mais on va quand même répondre en disant que, au sens large, le marivaudage, c'est souvent pris de manière négative. C'est pris comme, un style, le style de Marivaux, l'œuvre de Marivaux, les techniques de Marivaux, et c'est tout ce qui est autour de la surprise de l'amour, du raffinement, de la préciosité, de l'excès.
Mais c'est devenu un mot aussi qu'on emploie dans le langage commun, et qui fait presque plus référence à Marivaux.
Mais dire marivaudage comme ça, souvent quand on l'emploie aujourd'hui, c'est dans le sens négatif trop large. C'est du marivaudage, ça veut dire c'est du raffinement à perte de vue, et ça n'est pas intéressant, il n'y a pas d'action. On a prêté à Voltaire, en fait Voltaire ne cite pas Marivaux, l'idée que il parle des auteurs qui pèsent des œufs de mouche dans des balances en toile d'araignée. On a donc dit que Voltaire visait Marivaux, un Marivaux qui, avec le marivaudage, pèserait des œufs de mouche dans des balances en toile d'araignée.
Mais alors qu'est-ce que c'est en réalité ?
J'y viens. Alors plus précisément, le marivaudage, si on considère que le marivaudage, c'est le langage de Marivaux, en particulier dans son théâtre, le marivaudage, c'est une forme très précise de communication, d'intérêt pour la communication, et en particulier la communication indirecte qui fonctionne avec des détours, des précisions. C'est une forme, si vous voulez vraiment un mot, d'investigation psychologique. C'est-à-dire que le langage ne sert pas simplement à recevoir une information. Est-ce que vous m'aimez ? Oui, non. Dans Marivaux, quand on dit « Est-ce que vous m'aimez ?», la femme va répondre « Mais qu'appelez-vous aimer ?» Si bien que le marivaudage, c'est du dialogue avec une part importante d'investigation psychologique où l'on montre que les mots nous trahissent ou alors que les mots sont une arme pour combattre. Par exemple, dans une déclaration d'amour qui n'arrive pas, la comtesse voudrait qu'il y ait un aveu très fort du marquis. « Je me porte assez bien, mais savez-vous bien que vous me dites des douceurs sans y penser ?» Et le marquis lui répond « Pourquoi sans y penser ? Moi j'y pense !» Et pourtant la déclaration n'arrive pas. Vous voyez, on tourne autour de la déclaration avec un marquis ici très timide qui à un moment donné dit à la comtesse « Hein, voyez comme cela réussit, me voilà bien avancé !» Et la comtesse à part « Ne le voilà-t-il pas bien reculé ?» Le marivaudage, ce sont ces jeux de mots qui font une sorte de focus sur la conscience des personnages ou même sur leur inconscient.
C'est le jeu de deux êtres qui sont toujours à l'extrême limite de se connaître et qui s'épuisent à nommer ce qu'ils savent parfaitement. C'est ce que disait Roland Barthes du marivaudage. Et voyons maintenant ce qu'en disait Antoine Vitesse.
L'œuvre de Marivaux est à la fois une œuvre gaillarde, une œuvre extrêmement gaie, extrêmement drue, est forte, mais aussi une œuvre profonde et philosophique. Je dirais beaucoup plus finalement philosophique que tragique. C'est ce caractère de philosophie qu'il y a par exemple dans Ce prince travesti, où on voit un homme, le prince, enfin Lélio, le prince de Léon caché, qui fait un parcours véritablement initiatique. Alors il se cache dans la société pour essayer de comprendre le cœur humain. Et puis, quand il aura compris le cœur humain, il pourra régner enfin et être un roi sage, un despote éclairé, il pourrait être Marc Aurèle. Et puis, en fait, ce qui lui arrive, car c'est perpétuellement la surprise de l'amour, chaque pièce de Marivaux, c'est la surprise de l'amour, c'est qu'il rencontre une femme. Et c'est cette femme, enfin, qui lui sert de catalyseur. Et c'est à partir de la rencontre de cette femme que la quête initiatique est terminée. Finalement, c'est un très beau sujet philosophique.
Et oui, Françoise Rubellin, comprendre le cœur humain, comprendre l'amour, c'est cela qui permet de trouver une forme de sagesse. Ce sont les femmes, finalement, qui permettent à la sagesse d'arriver dans le monde de Marivaux.
Je dois dire oui.
Vous dites ce que vous voulez.
Il n'y a que le sentiment qui puisse nous donner des nouvelles un peu sûres de nous, dit Marivaux dans La vie de Marianne. Et plus que l'amour, c'est le sentiment qui compte. C'est bien ça, le cœur humain.
Parce que l'amour n'est pas saisissable chez Marivaux, c'est ça ?
Non, mais il y a des formes de sentiments qui ne sont pas l'amour. Donc l'analyse du sentiment, c'est plus large que le sentiment. Il y a le sentiment amoureux, oui, mais il y en a d'autres. Mais quand je faisais une petite restriction par rapport aux femmes, il est vrai que Marivaux a une aptitude à comprendre le cœur féminin qui était rarissime à l'époque. Et il y a même Faguet, un critique littéraire de la fin du 19e siècle, qui disait en 1890, parce que ça l'énervait, il ne comprenait pas Marivaux, il disait « Ce sera un divertissement de la critique érudite. Dans 4 ou 5 siècles, on se demandera si Marivaux n'était point une femme d'esprit du 18e siècle. » Il trouvait que c'était un auteur féminin, un auteur de femmes pour les femmes. Mais je voudrais dire qu'il y a des personnages chez Marivaux qui sont aussi porteurs de la philosophie de Marivaux sur le mode comique, comme Arlequin. Ce personnage type, qui vient de la comédie italienne, Marivaux a su très bien l'utiliser pour lui le charger, par son humour, par son comique assuré, de certains de ses messages sociaux.
Alors, on peut parler justement de l'importance des Italiens pour ce qui concerne le marivaudage, enfin le théâtre de Marivaux en général. Un mot avant cela, quand même, sur la réception critique de Marivaux, qui finalement n'a pas été très bien compris par les critiques, mais qui en revanche a beaucoup plu au public. Comment est-ce que vous expliquez finalement que d'un côté il ne soit pas compris et de l'autre quand même beaucoup aimé?
Eh bien, il faudrait le demander aux critiques, mais je pense qu'il est certain que Marivaux a eu un grand succès au XVIIIe siècle. On le sait très bien aujourd'hui. Marivaux écrivait des pièces principalement pour la comédie italienne. Il y avait deux grands théâtres de comédie à Paris, la comédie italienne et la comédie française. Donc il a aussi écrit pour la Comédie française, dans une moindre mesure, mais il a connu des succès majeurs, et on le sait par les registres de la Comédie italienne qui sont toujours conservés, on peut compter combien il y avait de représentations et de public. Et par exemple, Le jeu de l'amour et du hasard, en 1730, était une valeur sûre, la pièce était très souvent reprise pour faire venir le public. Si la critique ne l'a pas forcément bien reçue, je dirais que tout dépend des critiques et que ça dépend des pièces aussi. Alors, on peut peut-être pas simplifier pour dire la critique, mais je crois que là encore, c'est un problème presque français que de faire une distinction entre le grand théâtre...
Entre le public et la critique. Mais on ne peut pas quand même ne pas se demander si toutes les pièces de Marivaux ne sont pas un petit peu similaires, à la fois dans leur facture, dans les personnages récurrents, le fait qu'il n'y ait, par exemple, qu'il y ait beaucoup de pièces où le mot amour soit dans le titre. Et la critique qu'on faisait à l'époque, c'était l'impression qu'il n'y avait qu'une seule et même pièce qui formait les 40 dont vous parliez à l'instant, Françoise Rubellin.
C'est le Marquis d'Argent qui disait en 1743 que toutes les pièces pourraient être appelées à la surprise de l'amour. Mais par chance, Marivaux n'était pas mort et il a répondu en disant « Oui, il y a un même, je cite, un même genre de conversation et de style dans mes pièces parce que ce sont des mouvements de cœur ». Qui sont au centre, mais les histoires sont différentes. Et pour la réception, en un mot, le public a du mal à comprendre la grande comédie. C'est comme si on mettait au Panthéon la tragédie, mais que la comédie, c'est un genre en dessous de la tragédie. Et le public pouvait aimer, mais il faut voir aussi, par exemple, Voltaire dit tout le temps du mal de Marivaux, mais pourquoi ? Par pure jalousie, parce que Marivaux a été reçu à l'Académie française avant lui, il ne savait pas qu'il le serait. Et en plus, Voltaire ne s'intéresse pas à ce qui intéresse Marivaux.
Hmm. Voilà. Et alors les Italiens, justement, donc venons-y. Quelle est l'importance de ce théâtre italien chez Marivaux et comment se fait-il qu'il ne soit pas joué de la même manière par les Italiens et par la Comédie française?
Il y a une rencontre merveilleuse entre Marivaux et les comédiens italiens. Il faut dire d'abord qu'à l'époque, un auteur, quand il veut donner une pièce, se présente au théâtre, remet sa pièce, et c'est les acteurs qui décident s'ils veulent la jouer ou pas. Ça, c'est vrai aux Italiens et aux Français. Mais il se trouve qu'à partir de Harlequin poli par l'amour, en 1720, Marivaux se rend compte qu'il y a un Harlequin qui lui va très bien à la Comédie italienne, c'est Thomasin. Et il se rend compte surtout que les comédiens italiens jouent de manière beaucoup plus naturelle que les comédiens français. Le jeu est beaucoup plus codifié à la Comédie française. Quand on joue la tragédie, c'est de manière extrêmement statique, on ne doit pas bouger les bras plus qu'à un certain niveau. Et surtout à la Comédie française, pour ce qui est aussi de la comédie, on sait qu'il n'y a pas une bonne entente de troupe.
Alors que les Italiens improvisent sur scène ensemble.
Oui, les Italiens, c'est une famille, vous vous rendez compte. C'est le directeur, c'est Lelio, sa femme, c'est Flaminia, qui joue aussi. L'un s'occupe des décors, l'autre des vêtements. Sylvia, l'autre actrice féminine, c'est la belle-sœur du directeur. Le mari de Sylvia est aussi l'acteur Mario. Donc c'est comme une famille, et il y a une notion de troupe. Alors, attention, les Italiens, avant... ce qu'on appelle la commedia dell'arte, mais ça s'appelait comédie italienne à l'époque, avait l'usage, l'habitude d'improviser sur des canevas. Les pièces de Marivaux sont des pièces écrites, mais les Italiens la jouent de manière très naturelle. Et c'est ça qui marche avec Marivaux, parce que ce que recherche Marivaux, même s'il peut paraître alambiqué, c'est d'arriver au plus près du cœur, au plus juste, au plus naturel, et même au plus spontané. Il dit, vous me trouvez des expressions bizarres. On a dit que le marivaudage, c'était une langue dénaturée, avec des néologismes. Et Marivaux répondait, mais non, moi j'essaye juste de trouver les mots qui vont sur les pensées nouvelles que j'ai. J'ai des idées qui n'ont jamais été dites, donc c'est normal que la façon de les dire soit différente.
Et du coup, il aimait cette cohue qu'il y avait dans le théâtre italien, où on pouvait avoir du public quasiment sur la scène. Et donc, le naturel, c'est aussi la vie, finalement.
Alors, il aimait la vie, mais le public sur scène, il y était aussi à la Comédie française. Il y était des deux côtés, c'était gênant, ça a duré jusqu'à 1759. Ce n'est peut-être pas ça qu'il aimait, mais ça gênait tous les auteurs et tous les acteurs aussi, qu'il y ait des gens installés sur la scène, parce que ces gens-là, on les faisait payer beaucoup plus cher, ils venaient surtout se montrer. Mais ce que Marivaux aimait, c'est le rapport à la langue, cette rapidité, cette écoute, car les acteurs aux Italiens s'écoutaient les uns les autres par habitude de rebondir sur la dernière parole prononcée. Tandis qu'à la Comédie française, on est moins dans l'interaction. Je connais une anecdote de 1712, il y a une actrice qui, sur la scène, quand c'est pas son tour, elle jouait au bilboquet. En attendant son tour, elle se mettait un peu sur le côté. Donc, c'est plutôt l'impression d'ensemble. Et puis, cet extraordinaire Arlequin que Marivaux va trouver comme porte-parole de tout son comique et de sa réflexion sociale.
Voilà, et Olivier Postel-Vinet, qui en attendant joue également au bilboquet dans ce studio, car il est 15h30. Et 15h30, comme vous le savez, c'est le moment d'arrêter de jouer au bilboquet pour retrouver notre séquence en compagnie des revues avec donc Olivier Postel-Vinet de la revue Books. Bonjour Olivier.
Bonjour.
La revue Books qui revient notamment sur la correspondance de Vera Nabokov, la veuve de Nabokov.
Oui, en fait, c'est la correspondance de Nabokov et de Vera. Les lettres complètes connues de Nabokov à Vera, sa femme, ont été publiées pour la première fois en anglais à partir du russe. Et donc nous attendons avec impatience que ce soit traduit en français. Et c'est une histoire extraordinaire parce que c'est l'histoire d'un amour qui, en dépit d'un intermède dû à une passade de Nabokov à la fin des années 30, et a duré toute une vie, un amour extrêmement profond, au point certains disent que l'amour entre Vera et Vladimir a été l'amour le plus impressionnant et le plus heureux de toute vie d'écrivain du XXe siècle. Et alors, Vera était tout pour Nabokov. Il l'aimait très profondément, en dépit de cette liaison qu'il a eue à la fin des années 30. Il l'aimait passionnément, et elle l'aimait tout aussi passionnément. Mais elle l'a servi, en fait, toute sa vie. Elle l'a servi, elle a été sa dactylo.
Et de multiples façons, d'ailleurs.
De multiples façons, elle a été sa dactylo, elle a été sa lectrice. C'était pour lui une lectrice, sa première lectrice de toute son œuvre. Elle était la gestionnaire de ses droits d'auteur. Elle écrivait ses lettres. À la fin de sa vie, elle signait même à la place de Nabokov VN, de manière à entretenir l'ambiguïté. Elle était son assistante fiscale. Elle était son chauffeur. Elle était son garde du corps. À la fin de sa vie, enfin quand Nabokov est devenu célèbre, elle avait acheté un revolver pour écarter les intrus. Elle a été son assistante universitaire aux États-Unis, allant jusqu'à le remplacer quand il était de mauvais poil et qu'il ne pouvait pas donner ses cours. Et elle assistait dans la chasse aux papillons.
Elle tenait les ustensiles.
Elle a sauvé Lolita du feu, comme chacun sait.
Et le livre.
Et le livre, bien sûr, certes. Et à la fin de sa vie, elle était devenue une professionnelle en RP. Elle gérait l'image de Nabokov, qui était devenu l'écrivain le plus célèbre du siècle.
Donc tout cela à retrouver dans le magazine Books en ce moment ?
Tout ça à retrouver dans le magazine, pas absolument tout, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dans ce numéro. Et si vous permettez, j'aimerais citer quelques phrases tirées de ces lettres, donc traduites de l'anglais. Tu es la seule personne, alors ça ce sont des lettres de jeunesse en fait, quand il, peu à peu après leur découverte mutuelle, il était allé travailler dans une ferme dans le sud de la France pour gagner sa vie. Elle était restée à Berlin et il lui écrit « Tu es la seule personne avec qui je peux parler de l'ombre d'un nuage, de la chanson d'une pensée et de la façon dont, quand je suis parti au travail aujourd'hui et ai fixé le visage d'un tournesol de haute taille, il m'a souri de toutes ses graines. » Et cet autre passage « Je ne peux pas écrire un mot sans écouter la manière dont tu vas le prononcer. Je suis de plus en plus fermement convaincu que l'art est la seule chose qui compte dans la vie. Je suis prêt à endurer le supplice de la torture pour trouver un seul adjectif. » Et pour finir cet hommage à Flaubert, il relit Madame Bovary et il dit à Vera « Le roman le plus brillant de toute la littérature mondiale. »
Merci beaucoup Olivier Postel-Vinet. Tout cela donc et bien plus dans la revue Books en kiosque en ce moment.
Mmh.
écoutez toujours la compagnie des auteurs et nous sommes avec Françoise Rubellin pour ce panorama introductif à l'œuvre et à la vie de Marivaux.
Cet habit-là n'est pas le vôtre. Avouez-le. Madame, je vous ai vu ailleurs.
Vous dites vrai, Seigneur.
Les témoins, comme vous voyez, n'étaient pas nécessaires. Du moins, ne rougissez-vous que devant moi.
Si je rougis, je ne me rends pas justice, Seigneur. C'est un mouvement que je désavoue. Le déguisement où je suis n'enveloppe aucun projet dont je dois être convaincu.
Moi qui entrevois ce projet, je n'y vois cependant rien de convenable à l'innocence des mœurs de votre sexe. Rien dont vous puissiez vous applaudir. L'idée de venir m'enlever à Agis, mon élève, d'essayer sur lui de dangereux appâts, de jeter dans son cœur un trouble presque toujours funeste, cette idée-là, ce me semble, n'a rien qui puisse vous dispenser de rougir, madame.
Agis, qui, ce jeune homme qui vient de paraître ici, sont cela vos soupçons? Ai-je rien en moi qui les justifie? Est-ce ma physionomie qui vous les inspire? Et les mérite-t-elle? Et faut-il que ce soit vous qui me fassiez cet outrage?
Un extrait du Triomphe de l'amour par Jean Villard et Maria Cazares. Vous aimez bien cette interprétation? Peut-être un petit peu datée, non?
Ah non, pour moi c'est tout à fait encore d'actualité. Et surtout que le moment que vous choisissez, c'est le moment qui réfère au travestissement, cet habit-là. Et c'est une chose qui fascinait Marivaux. Plusieurs de ses pièces mettent en scène des personnages qui décident de changer d'identité, des femmes qui se déguisent en hommes ou de changer de rang social, des femmes nobles qui veulent se déguiser en suivante. Et quelquefois les deux, c'est le cas de la fausse suivante. Donc non, c'est très...
Mais qu'est-ce qui va faire une bonne interprétation de Marivaux?
Je ne suis pas juge des bonnes interprétations.
En tant que spectatrice quand même, si.
Ah, comme spectatrice, mais déjà c'est une mise en scène qui permet de rentrer dans ce langage de Marivaux où on ne parle pas à toute vitesse et on prend le temps de retrouver cette magie des mots qui pour moi caractérise Marivaux. C'est aussi un tempo, c'est un rythme. Mais je ne pourrais pas donner un critère particulier.
Qu'est-ce qui fait la modernité du théâtre de Marivaux et qu'est-ce qu'il a apporté finalement dans l'histoire du théâtre?
Bon, la modernité, qu'est-ce que c'est? Puisque à chaque époque, on se demande où sont les modernes et on se le demandait déjà au XVIIe siècle. Je dirais que ce qui le fait actuel, ce qui le rend accessible aussi bien aux scolaires qu'aux autres, c'est cet intérêt pour une chose qui ne passe jamais de mode, c'est le sentiment, c'est le cœur et le rapport au langage. Je pense que ce que Marivaux a apporté d'intéressant au théâtre, qui n'était pas beaucoup présent jusque-là, c'est justement cette subtilité. Vous voyez, les gens qui s'intéressent à la psychanalyse aiment beaucoup Marivaux en général. Et ce qu'il a apporté, c'est cet intérêt pour ce qu'on se cache à soi-même. Et il a tenté d'utiliser le dialogue théâtral pour démasquer la mauvaise foi, tous les pièges de l'amour propre, toutes les ruses.
Mais ce qui est très fort, c'est que justement, il le fait avec des dialogues. Il ne le fait pas avec des monologues intérieurs.
Et voilà, il le fait avec des dialogues. Et ce qui caractérise stylistiquement souvent le marivaudage, c'est le rebond sur les mots. Le fait qu'on rebondit sur le dernier mot présenté. Et la phrase d'après, avec une petite nuance, va reprendre un des mots, mais en le faisant changer. Et tout à l'heure, je parlais d'investigation psychologique, mais là, Marivaux est très actuel en montrant la dimension sociale du langage. Il en fait le cœur de certaines pièces, de montrer qu'un arlequin, c'est-à-dire un valet, ne peut pas parler comme un maître, mais dans le jeu de l'amour et du hasard, l'autre sens aussi fonctionne. Dorante est démasqué parce qu'il parle trop comme un noble alors qu'il est déguisé en valet.
Et on ne peut pas aimer non plus de la même manière si l'on est un valet ou si l'on est un noble.
Bien sûr, mais ça c'était peut-être connu à l'époque. Simplement, Marivaux, nous l'oublions pas, est un grand auteur comique. Vous le disiez dans un extrait, on le disait tout à l'heure. C'est un grand auteur comique et justement, les passages les plus drôles de ses comédies, c'est les moments ou juste après une scène très tendue qui peut mettre les acteurs au bord des larmes et parfois même le spectateur, entre des amoureux qui pensent vraiment qu'ils vont en mourir, qu'ils sont dans une impasse, arrive Arlequin, par exemple, qui va refaire la scène en comique, en raté, en décalé, qui va jouer le précieux. Mais par exemple...
Et qu'est-ce que vous en retirez de ça ?
Je donne juste l'exemple, dans le jeu de l'amour et du hasard, quand Arlequin est déguisé en noble, il essaye de draguer celle qui croit être une noble, mais qui en fait la suivante, il dit « Madame, mon amour est d'une telle sorte, je brûle », donc là il prend le bon mot des précieux, « je brûle et je crie au feu ». Donc le cri au feu dégonfle complètement toute l'emphase du discours précieux.
Et dans le pathétique aussi, il est drôle, dans la double inconstance. Ouais. Au début, je crois, nous souffrirons peut-être un peu, voilà tout, quand il est question de précisément quelque chose d'a priori très pathétique et très douloureux. Nous souffrirons peut-être un peu, voilà tout.
Oui, vous me faites penser aussi à ce début de la seconde surprise de l'amour, où est en scène une jeune veuve qui est vraiment triste d'avoir perdu son mari et comment fait Lisette pour la consoler et pour la consoler d'avoir perdu son mari, et bien elle lui dit quand la femme dit j'ai tout perdu, et Lisette dit tout perdu, est-ce que tous les hommes sont morts? Alors chaque fois on a une sorte de retour au bon sens populaire, un peu comme un Sancho Panza qui viendrait faire retomber sur la terre son maître Don Quichotte.
D'ailleurs, il y a quelque chose de Don Quichottesque.
Tout à fait. Oui, oui. Aussi bien mis dans la bouche de Valet que de suivante.
Alors, le mot « mais », c'est un mot que vous soulignez dans votre livre. Vous dites il y a beaucoup de pièces de Marivaux qui commencent par le mot « mais ». Notamment la double inconstance s'ouvre par le mot « mais ». Le jeu de l'amour et du hasard s'ouvre aussi par le mot « mais ».
Ça, c'est une astuce de Marivaux pour faire croire que l'action a commencé avant le lever de rideau. Si vous commencez par « mais », c'est qu'il y a un discours qui précédait. Et c'est habile, puisqu'on parlait tout à l'heure de naturel, il faut donner l'impression au spectateur qu'il assiste à une querelle ou à une discussion de femmes, commencer avant le début avant le lever du rideau.
Mais c'est peut-être aussi pour dire qu'on va directement se placer dans la dispute, c'est-à-dire se placer contre, en fait.
Oui, dans l'énergie du dialogue. Mais il y a d'autres mais qui ne sont pas des mais de début de pièce, mais qui caractérisent aussi cette force de la réplique chez Marivaux. Et vous allez voir un exemple qui me vient à l'esprit. On a aussi ce marivaudage comique. Trivelin dit à Arlequin dans la double inconstance, Arlequin à qui on a pris son amoureuse Sylvia, on l'a enlevée. Alors Trivelin, l'officier du prince qui a fait enlever Sylvia, dit à Arlequin, vous n'allez point au fait, écoutez jusqu'au bout. Et Arlequin, haussant le ton, mais le voilà le bout. Donc on reprend bout, il y a un mais, et c'est une attention au mot, on rebondit sur la phrase, mais pas sur ce qui était le plus important.
Chez Marivaux, justement, face à une forme de lourdeur, d'angoisse, une forme de respiration, de légèreté, de façon d'aborder les relations humaines, Il n'y a pas de véritable tragédie hein, chez Marivaux. C'est toujours des personnages très vifs et avec une répartie incroyable. Il y a une beauté du langage aussi extraordinaire hein, chez Marivaux. Et puis, c'est toujours un petit peu, mine de rien, cette volonté de donner aussi un rôle important aux valets, aux soubrettes. Et il en fait toujours des personnages qui ont la clé de l'issue de l'intrigue. Puis aussi, le romancier qu'on connaît peu. Hein, pour moi, La vie de Marianne, c'est un roman initiatique. Et en même temps... avec aussi, là aussi, je m'y retrouve un peu, cette identification à un personnage féminin. Tout le long du roman, il écrit à la première personne du singulier, en se mettant à la place de Marianne. Et c'est une jeune adolescente hein, qui va évoluer. Et c'est extraordinaire, cette façon qu'il a de se mettre à la première personne dans la peau d'une jeune fille. On y croit complètement, on a vraiment le sentiment que c'est une jeune fille qui nous parle quand on lit le roman. Et je trouve ça extraordinaire.
C'était Abdelatif Kechiche, le réalisateur, au micro de Michel Simon, en 2003, au moment de la sortie de L'Esquive. Il dit beaucoup de choses dans cet extrait, Abdelatif Kechiche. Alors, il parle de La vie de Marianne, dont on parlera demain dans cette émission. Et puis, il souligne, comme vous le faites d'ailleurs, l'aspect social des pièces de Marivaux.
Oui, c'est important parce que si on s'arrête simplement au langage d'amour, aux déclarations d'amour qui arrivent à la fin des pièces d'amour, c'est réducteur. Et il y a vraiment cet humanisme qu'on appelait même, Michel Gillot et Henri Coulet ont donné comme expression, l'humanisme expérimental de Marivaux, c'est-à-dire un humanisme pas dogmatique mais en situation. Et bien cet humanisme, il est très important, il transparaît aussi bien dans son théâtre, que dans ses romans, que dans ses journaux.
Mais enfin, l'amour dont vous parlez, jusqu'où va-t-il ? Va-t-il jusqu'au libertinage ? Il y a l'expression « une partie carrée » qu'on retrouve dans « La double inconstance ». Voilà, jusqu'où va cet amour ?
Attention, parce que tous les auditeurs vont se précipiter pour lire « La double inconstance » en croyant que c'est un roman érotique et pas du... un théâtre érotique et pas du tout. Non, Marivaux ne...
Oui, perdons pas leur temps quand même.
Ne montre pas... Il ne s'intéresse pas en fait à ce qui se passe après l'aveu d'amour, après la rencontre des cœurs, quand les cœurs se sont rencontrés, se sont reconnus, et en fait quand le masque tombe, quand les gens qui fuyaient l'amour, c'est un des thèmes, dans la surprise de l'amour, dans la seconde surprise de l'amour, dans les serments indiscrets, des gens qui ont dit « je n'aimerai plus jamais » et puis qui retrouvent l'amour, ben quand ils admettent qu'ils aiment, ce qui suit n'intéresse pas Marivaux. Il fait dire à Arlequin une petite remarque, souvent avec un sous-entendu grivois, tout à la fin. « Je me passe bien de la cérémonie », dit Arlequin. Bon. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est vraiment, on a parlé d'investigation psychologique, mais c'est vraiment aussi l'attention à tous les problèmes d'interprétation. Ça, c'est aussi ce qui rend Marivaux très intéressant aujourd'hui. C'est l'idée qu'une phrase peut vouloir dire plusieurs choses. Mais elle peut dire plusieurs choses pour celui qui l'écoute, mais même pour celui qui la prononce. Ce sont des niveaux complexes qui supposent des analyses poussées. Et ça, vraiment, Marivaux était fasciné par la communication. Et j'ajouterais, vous m'avez demandé ce qu'il apportait au théâtre, mais ce grand intérêt pour la communication non-verbale, c'est-à-dire qui ne passe pas par les mots.
Et c'est un autre théâtre, ça, à l'époque, en tous les cas.
Disons que, oui, on peut toujours trouver des exemples dans des comédies antérieures de signes avec les mains, avec les yeux, avec le corps. Mais Marivaux en fait quelque chose de si important que c'est même dit par les personnages. Avec deux yeux, ne dit-on pas ce que l'on veut, conseille un personnage. Mais, par exemple, Marivaux est persuadé que le déplacement va parler plus que les paroles qui sont trompeuses, va dire plus que les paroles. Alors, à un moment donné, une femme qui aimerait bien que l'homme avoue son amour pour elle, mais qu'elle voit qu'il n'y arrive pas, elle dit « feignons de sortir afin qu'il m'arrête ». Donc, elle comprend que marcher vers la sortie, ça suffira à lui dire « arrêtez, je vous aime », alors que essayer de lui arracher les mots, ça n'aurait pas marché.
Et ça, c'est encore une modernité de Marivaux, car dans la littérature qui suivra, et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours dans l'idée qu'il vaut mieux montrer que dire.
Oui, peut-être très globalement, mais en tout cas dans le cas de Marivaux, ses attentions au langage du corps, au langage des yeux, sont remarquables. Si on étudie plusieurs, si on lit plusieurs pièces à la suite, on s'aperçoit que Marivaux accorde de l'importance à la rougeur. Vous rougissez, madame, et c'est tout dire. Alors évidemment, on ne savait pas rougir instantanément à l'époque, mais il faut rappeler qu'on n'y voyait rien au théâtre du XVIIIe siècle. Le public ne voyait pas bien, c'était mal éclairé. Donc quand on disait « vous rougissez », il fallait le croire. Mais la rougeur voulait dire « le langage manifeste, le corps manifeste quelque chose que votre langage essaye de me cacher ». Alors l'intérêt au non-dit, au non-verbal, est tout à fait remarquable dans la plupart des pièces de Marivaux.
Alors vous allez me dire que je cherche à insister pour dévoyer nos auditeurs, mais il y a quand même des metteurs en scène qui ont vu du Sade chez Marivaux et qui l'ont monté comme si c'était un peu du Sade. C'est un contresens pour vous, Françoise Rubellin ?
Oui, c'est un contresens, mais je ne les blâmerai pas. Et puis ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient donner le vrai sens de la pièce telle que Marivaux l'avait conçue. Les mises en scène, c'est ça qui fait que le théâtre c'est formidable. On peut voir 10 fois la même pièce et en fait on ne s'ennuie jamais parce que ce n'est pas 10 fois la même. Donc les mises en scène servent souvent à montrer aussi le monde personnel du metteur en scène, homme
et
ou femme.
Le péché, par exemple, c'est quelque chose qui n'existe pas chez Marivaux.
Le péché, mais vous employez une notion qui est très connotée. Oui. La chose, vous voulez dire ?
Non, la notion de péché n'intervient jamais dans ces comédies.
Ça n'intervient pas parce que ce n'est pas un théâtre qui se veut moralisateur. Et en cela, c'était très libre parce que la comédie de Marivaux, en gros, elle s'écrit entre 1720 et 1740. Mais à partir des années 30, et ça va continuer tout le siècle, on va voir un théâtre beaucoup plus moralisateur. Nivelle de la Chaussée, des Touches, le drame bourgeois de Diderot, de Beaumarchais qui commence sa carrière avec 2 drames bourgeois, les 2 amis, Eugénie, c'est-à-dire des comédies où il faut faire la morale. Et Marivaux, ça ne l'intéresse pas. Il est en émerveillement devant la variété des sentiments, la variété des gens, et c'est ça qu'il montre au spectateur. Vous savez que peut-être qu'il a écrit des journaux, c'est-à-dire un ensemble de feuilles périodiques. Et le premier ensemble de ces feuilles qui paraissaient, mois après mois, s'appelle Le Spectateur français. Donc Marivaux, c'est vraiment un spectateur. Il aime regarder les pièces de théâtre des autres, mais il aime regarder les humains, les observer, les décrire. C'est ça aussi qui fait que, justement, ça n'est pas toujours la même pièce et qu'on est dans ce plaisir qui peut déboucher sur de la philosophie, mais qui est déjà là, comme ça.
Et de la cruauté, pour terminer, est-ce que vous en voyez aussi chez Marivaux ?
Alors, la cruauté, puisqu'on revient aux mises en scène en même temps, bien sûr que certains metteurs en scène sont allés loin dans la cruauté, jusqu'à faire pendre certains acteurs, faire ligoter d'autres. Je ne vais pas les énumérer. Je crois que les pièces de Marivaux ne sont pas cruelles, mais il y a des situations qui sont cruelles, de tensions extrêmes, dans le désespoir, quand, par exemple, dans L'Épreuve, le titre le dit bien, un jeune homme qui aime une jeune fille va faire semblant de ne pas l'aimer, dire que c'est pour son ami, etc. Et la jeune fille est extrêmement malheureuse. Donc, à ce moment-là, c'est cruel pour la jeune fille. On attend avec impatience qu'on se démasque. Mais je dirais, pour terminer, et pour rappeler comment se terminaient les pièces, que les pièces de Marivaux, à la comédie italienne et même à la comédie française, se terminaient, comme les comédies de l'époque, par un divertissement dansé et chanté. On finissait donc en musique, de manière bien plus légère que la gravité qui peut affleurer dans certaines pièces.
Merci Françoise Rubellin. Nous, on fait un peu la même chose, sauf qu'on ne danse pas, on ne chante pas, mais on écoute Jacques Bonafé. Et toute la semaine, Jacques Bonafé vous propose d'entendre des textes de Patrice Delbourg, collaborateur des Papous dans la tête depuis des années sur France Culture, on le sait, mais qui a publié également Solitudes en terrasse au Castor Astral. Et c'est de ce recueil dont sont extraits les textes que vous allez entendre.
Bonjour, cette semaine nous la passons avec le poète Patrice Delbourg en terrasse. Observez bien, faites-vous Observateur, solitudes en terrasse, paru au Castor Astral, n'est pas solitude en terrasse, mais bien des solitudes en terrasse. Il venait chaque midi manger son museau de bœuf sur la petite table près du téléscripteur. Il prenait un pichet de Cahors, presque toujours deux desserts, lisait l'équipe de très près, cochait les scores des équipes du Nord. Un jour, on apprit qu'il était mort par la voix d'un joueur de loto, un fric-frac qui avait mal tourné. « La tête comme du sirop de framboise », précisa un quidam en allongeant sa mominette. « Zut alors !» dit la buraliste, alignant ses paquets mentolés. « Je l'avais encore vu samedi, ça fait tout chose. » La mominette, c'est la fillette, aujourd'hui on dirait un baby quand on parle de whisky. Station arts et métiers, un peu de pesanteur, le bir est dans les verres, les vétérans entrechoquent leurs dominos. Marie exagère sa poudre de riz. Mi flanelle, mi dain, il disait toujours, ne plus hésiter, ne plus reculer, devant rien ni personne. Allez jusqu'au bout du chemin, de toutes ses forces, n'écoutez que son impérialisme. Ça, c'est un extrait de générique aux éditions Belfond. Avec nos solitudes en terrasse, nous trouvons Roger Kowalski à celle de la miséricorde. Il habitait des temps limonadiers où le cynard n'était pas rare, la mer Picon non plus. L'espace des caboulots battait d'antan la chamade. Délivré de tous les points cardinaux du salariat, un brasero tangué dans les effluves d'encaustique, les frimas ramenaient en vagues frileuses les petites laines des surplus américains sur les genoux cagneux des sofas usagés. Roger Kowalski, soliloqué, au centre du foyer baptisé « À la miséricorde ». Sa voix s'effaçait derrière le bourdonnement d'un groupe électrogène à fioul lourd. Les poètes sont des acariens. Ils parasitent, ils démangent, mais ils s'accrochent la lueur d'une veilleuse suintante, verdâtre, à la manière d'un exit de salle de cinéaque. L'attente devant le gobelet d'eau de vie de grain évoquait une longue insomnie trempée de sueur. Roger Kowalski est né à Lyon en 1934, il y est décédé en 75. Ainsi, à chacune des terrasses, nous rencontrons des auteurs, des poètes. Pour moi, la vision du paradis serait une terrasse de café qui ne finirait jamais, disait Alphonse Allais. Voici l'organisation du livre. Un, plan quinquennat. Deuxième chapitre, almanach vermouth. Une vie de père Pinard pour le troisième. Veni vidi whisky. En présence de la vodka, écrivain, un brandy d'honneur, à tout picher miséricorde et pour terminer, bière tombale. L'amour, c'est comme l'alcool, plus on est impuissant et saoul et plus on se croit fort et malin, disait Louis-Ferdinand Céline.
Les cigares vous entendent parler de Paradise Lost. Du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
Jacques Bonafé lisait donc des textes de Patrice Delbourg publiés au Castor Astral sous le titre « Solitudes en terrasse ». Et c'est ainsi que s'achève ce premier numéro de la Compagnie des auteurs de cette semaine. Un grand merci à Françoise Rubellin d'être venue nous proposer cette introduction à Marivaux. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers son livre « Lecture de Marivaux ». C'est aux presses universitaires de Rennes. Cette émission était opérée grâce à Anne-Vanessa Prévost, Pascaline Bonnet, Didier Pinault et Sophie Delon-Barès, à la réalisation Laurence Millet, à la console Élise Leu. Vous pouvez bien entendu réécouter toutes ces émissions depuis janvier dernier sur le site internet de France Culture ainsi que toutes celles que vous n'avez pas pu télécharger depuis janvier dernier. Je me répète donc, en attendant demain et une heure en compagnie de Christophe Martin pour parler de Marivaux. Ce sera également avec Jacques Guillambé, Marivaux, romancier. Nous parlerons en particulier de la vie de Marianne.